Merci Seigneur encore de cette matinée. Je te remercie pour ce temps de louange, Père. La manière dont tu as rappelé tes promesses, tu as rappelé ta parole. La manière aussi dont on a pu se rapprocher de toi en cette matinée. Oui, tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Tu es notre sauveur. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous a aimés de toute éternité. Et ce matin, vraiment, nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Au milieu de tous ces tourments, au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de toute cette confusion, tu es notre lumière, tu es le chemin, la vérité et la vie. Remplis-nous de cette vie. Ta parole est la vie. Remplis-nous de cette vie, Père. Oui, vraiment que tu puisses tout conduire, tout ce qui va continuer de se faire, et que tu puisses en tirer toi seul toute la gloire, Seigneur. Je te prie de couvrir vraiment ce lieu de toute ta présence, et que les âmes soient captives en toi, Seigneur. Tu dis que Paul disait que par la puissance de Dieu, il n'agissait pas par la chair, mais les armes avec lesquelles il travaillait étaient puissantes pour renverser tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et que toute pensée soit captive en Jésus-Christ. Oui, c'est là le pouvoir, par ton esprit, par ta parole, d'enlever toute confusion, d'enlever tout mensonge de l'ennemi, pour que ta vérité, ta parole, et une pleine victoire dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Amen. Il y a juste une petite vidéo pour introduire. Alors, je ne sais pas si Kamal t'a dit.
Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi.
Et quoi ? Pardon ? On est où là ? Excusez-moi, mais on est où là ? C'est quoi cette histoire là ? Ça n'existe pas, tout ça ? C'est un rêve ou quoi là ? Je suis où là ?
Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie.
Attendez, quelle mauvaise voie là, quelle mauvaise voie. Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Mais qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux.
Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui.
Écoutez-moi, personne ne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne ne me l'a dit, ça. Non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier, au moins. Laissez-moi me justifier, je ne veux pas aller en enfer. Écoutez-moi!
Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte osezjesus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera « Dernière minute ». C'est donc le regard dubitatif que « Dernière minute » se présenta devant le trône.
« Dernière minute, je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre.
Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi?
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie.
Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi?
Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus. J'ai cru en toi. J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur.
La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement
« Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'indépendant. Selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement.
Mais Père, je suis ta fille. Je veux pas aller en enfer. Non, s'il te plaît, va.
Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil, au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ».
Cœur fidèle.
Oui, Père.
Avance, mon enfant.
J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon.
Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.
Voilà la vidéo qui nous met en face d'une réalité à venir. Il y a certains aspects qui peuvent être éventuellement dits discutables. De toute manière, c'est juste une mise en forme de quelque chose qui, de toute manière, nous dépasse et qui est vraiment au-dessus de nous. Cependant, en fait, le Seigneur nous met en face la réalité de son retour et nous amène vraiment à nous préparer à son retour. J'aurais envie de lire pour introduire tout simplement Jean 3, 16 que la plupart connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà vraiment l'encouragement de ce matin, de savoir que Dieu nous aime et que nous sommes actuellement dans un temps de grâce. On voit cet homme qui avait entendu parler de Dieu, mais qui s'y est opposé, qui a décidé de vivre selon le train de ce monde, qui s'est laissé emporter simplement dans l'égoïsme de la vie. Comme il est dit dans Romains, ils sont inexcusables car ayant connu Dieu, ils n'ont point adoré, ils ne lui ont point rendu gloire. Cet homme peut-être pensait qu'au final, il avait fait des choses bonnes et que tout n'était pas si mal que ça. Mais le Seigneur dit clairement qu'il est inexcusable car il n'a pas rendu à Dieu toute la gloire qui lui était due. On est aussi cette femme double vie, où en fait, Christ n'était pas son maître. Ça évoque aussi le passage de Luc au chapitre 3, verset 8, où Jean s'adresse aux pharisiens et qui leur dit, race de vipère, qui vous a appris 3:7, Luc 3:7. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les pharisiens venaient, ils avaient cette perception qu'il y avait un jugement futur. Mais il dit, mais ce n'est pas parce qu'il y a un jugement futur et que tu viens à Christ que tu vas fuir la colère à venir. Il aurait dit clairement de manifester des fruits dignes de la repentance à vrai dire, de manifester que leur cœur est disposé, au-delà du salut, de véritablement accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cette femme double vie, beaucoup de passages parlent de cette femme. Dans Pierre, il est évoqué qu'elle est retournée à son vomi. Après avoir été illuminée, avoir connu Jésus, les personnes se sont détournées et sont retournées à leur vomi. Il y a aussi ce passage qui dit par rapport à Démas dans 2 Timothée 4, 10. Démas a abandonné Paul alors qu'ils partaient ensemble par amour du siècle présent. Il est dit aussi dans Hébreux 6 aussi l'évoque, que ceux qui pêchent volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus d'expiation pour leur péché. Cette personne aussi évoque aussi l'huile dans la lampe, celle qui attendait mais n'avait pas d'huile dans sa lampe. Au niveau des talents, Dieu a remis des talents, mais cette personne qui a gardé et qui n'a rien fait avec. Ça rappelle la semence avec ses mauvais terrains, où il est parlé de la persécution, où il est parlé aussi de la séduction de ce monde, les soucis qui empêchent à cette terre de produire le fruit espéré, la bonne terre. Il est dit, comme Kamal l'a évoqué, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il est dit aussi que Dieu vomira ceux qui sont tièdes. Il est dit aussi, comme dans la parole, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est dit également dans Galates, au chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les exemples sont nombreux dans la parole et la parole de Dieu est claire. Tu marches avec Christ ou tu marches avec l'ennemi. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. On parle de la venue de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas parler de la venue de Jésus-Christ sans parler de son retour. Car si Jésus-Christ est venu, c'est parce qu'il reviendra pour juger la terre. On ne peut pas parler de grâce sans parler de jugement. Car la grâce a été accordée à cause du jugement. Et actuellement, c'est un temps de grâce. Dieu va juger la terre. Dieu va bouleverser les éléments sur terre à cause du péché. Peut-être te rends-tu pas compte de l'état de notre terre, ou peut-être tu minimises les choses. Mais la parole nous dit que toutes ces choses vont aller à la destruction. Donc si tu prends part à ces choses, tu seras détruit dans la foulée. Mais la grâce que Dieu t'a faite, l'amour que Dieu t'a manifesté, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi. Je vais évoquer aussi la personne, du coup, j'ai oublié son nom. Loyal, fidèle, serviteur fidèle. Christ était son maître. Elle était enfant de Dieu. Elle était disciple de Dieu. Elle avait fait une démarche sincère avec Dieu. Ce qu'on a évoqué par rapport à double vie, le Seigneur lui a parlé. À la lumière de la parole, comme ça a été dit juste à l'instant, le Seigneur avance les choses pour te révéler. Mais ta terre n'est pas bonne. Ta disposition de cœur n'est pas bonne. Il n'est pas question de dire « je perds mon salut ou pas ». Il est le fait que cette personne-là n'était pas pleinement à Christ. Elle a fait une démarche, elle a goûté. Hébreux 6, Hébreux 10 l'évoquent. Ils ont goûté aux choses spirituelles, mais ils s'en sont détournés. Par amour du monde, par amour de la convoitise. Elle a manifesté tout simplement qu'elle n'était pas enfant de Dieu, qu'elle n'avait pas pleinement saisi l'attachement à Dieu. Ce n'est pas qu'elle était en marche et que tout d'un coup, elle s'est laissée troubler et qu'elle a perdu le salut. Elle n'était pas pleinement à Christ. Elle n'était pas enracinée en Christ. Christ n'était pas son maître. Christ n'était pas tout pour elle. Elle n'était pas disciple de Christ. Mais les promesses sont grandes pour ceux qui ont un cœur sincère devant le Seigneur. Voici ce qui se qualifie, voici quel est le partage de ceux qui sont sincères devant Christ. Il est dit qu'ils sont passés de la mort à la vie. Jean 5, 4. Il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. De Timothée 2, 13 manifeste aussi, ce sont ceux qui persévèrent. Il est dit, même s'ils sont infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Mais par contre, pour revenir à double vie, il dit ceux qui le renient, il le reniera aussi. Serviteur fidèle est celle aussi dans la parole qui porte du fruit, du bon fruit. Comme il est dit aussi dans 1 Jean, cette personne aime son frère. Car l'amour vient de Dieu. Il est dit aussi dans 1 Jean, cette personne-là ne demeure pas dans le péché. Cette personne-là marche de gloire en gloire. La paix, la joie du Seigneur habite cette personne. Cette personne est plus que vainqueur. Romains 8, verset 37 nous dit la chose suivante. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La persévérance vient naturellement en ceux qui sont dans la bonne terre. Et c'est à ces choses-là, aux fruits qui est porté, à l'amour, à la joie, à la paix, tout ça manifeste vraiment que cet enfant est vraiment l'enfant du Seigneur. Il y a des promesses aussi pour la fin des temps qui sont interpellantes et qui nous donnent cette assurance lorsque nous sommes en Jésus-Christ d'un cœur sincère que rien, rien ne pourra nous éloigner de lui. Il est dit dans Matthieu 24, au verset 22, premièrement. Il est parlé de la fin des temps, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il y a deux choses vraiment là qui sont évoquées, que les temps sont abrégés, parce que sinon, personne ne serait sauvé, même les élus. Et il est dit aussi qu'il y aura une séduction tellement forte que s'il était possible, ça veut dire que ça n'est pas possible. Même les élus seraient séduits. Donc voilà l'assurance vraiment que le Seigneur donne à ceux qui marchent d'un cœur sincère, qui marchent selon ses préceptes. Que rien ne pourra nous arrêter. Nous allons continuer dans 2 Pierre, le passage principal de ce matin, au chapitre 3. Je vais encore prier. Seigneur Dieu, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour toutes choses. Ô Père, vraiment, je te demande de venir à mon secours, à notre secours, pour comprendre ta parole. Je te prie que ce soit ton esprit qui nous éclaire, Père. Vraiment, viens nous éclairer, Seigneur. Viens nous parler au travers de ta parole. Manifeste encore ta puissance, car c'est un temps de grâce, Père. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est pas facile pour moi ce matin, mais que vraiment toutes ces choses qui sont déposées puissent prendre vraiment de bonnes racines, pour produire un fruit. Un fruit que, attendu par notre Seigneur. En parlant de la fin des temps, rapidement, en fait, le Seigneur m'a vraiment mis là-dedans. C'est Richie qui m'a passé cette vidéo. Puis je me suis dit, la fin des temps, repousse un peu. Il faut vraiment que tu connaisses mieux la parole par rapport à ces temps. Et c'est vrai, le fait d'ouvrir la parole par rapport au jugement dernier, j'ai vu, waouh, il y a tellement de choses. Donc je vous encourage à lire Daniel 7, je vous encourage à lire Apocalypse 19 et 20, je vous encourage à lire 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens et 1 Pierre et 2 Pierre. Vraiment tout ça va vous plonger et vous allez voir qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses entre l'enlèvement, entre le jugement, entre les 1000 ans où le Seigneur va régner, où nous régnerons avec lui. Tellement de choses, je me dis mais... Attends, mais ça fait combien de temps que je suis à l'église? Voilà. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à creuser ces choses et c'est aussi ce que le Seigneur me permet de faire. Parce que ces choses-là, en fin de compte, ne sont pas dans la Bible par hasard. Elles nous permettent vraiment d'affermir la vocation que nous avons et de comprendre où le Seigneur veut nous amener. Puisque la direction où tu vas, c'est par rapport à l'issue de tout ça. En fait, tu empruntes un chemin et le chemin nous donne cette destinée. Comme je disais au début, il n'y a pas de grâce sans jugement. Il n'y a pas de venue de Jésus-Christ sans son retour. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il va revenir. Et combien le fait d'être plongé dans toutes ces choses-là m'ont donné une sainte crainte Une paix en même temps, mais une sainte crainte de me dire « Mais comment tu vis ta foi ? Mais où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu hâtes la venue de notre Seigneur ? Est-ce que tu prépares ? Est-ce que tu es dans la joie ? Est-ce que tu es dans la reconnaissance ? Est-ce que tu vis pleinement comme lui a vécu ? Car le Saint-Esprit nous permet de vivre comme Jésus-Christ a vécu. Lorsque nous regardons Paul, lorsque nous regardons Pierre, nous pouvons les regarder de haut. Mais ils ont vécu un événement puissant lors de la Pentecôte ou la révélation de Jésus-Christ, où en fin de compte, l'Esprit Saint les a remplis d'un feu qui leur a permis d'accomplir tout ce que le Seigneur voulait accomplir au travers d'eux. Et c'est là ma prière pour moi-même, c'est là ma prière pour l'Église, que ce feu du Saint-Esprit puisse nous enflammer pour que nous puissions vraiment marcher de gloire en gloire sur le chemin de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a tracé pour nous. Il y a aussi cette notion des notions enfin, véridiques et concrètes, des récompenses, la manière dont tu bâtis sur le fondement. Est-ce que tu bâtis selon Christ ? Est-ce que tu fais les choses par la chair, par toi-même ? Il y a un frère, en tout cas, qui partageait le fait qu'il, comme si le Seigneur, à un moment, lui avait montré, mais là, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, eh ben, c'est comme si tu étais passé, sauvé au travers du feu, que toute son œuvre était comme de la paille. Parce qu'il avait œuvré beaucoup dans la chair. Il avait œuvré avec ses propres forces. Alors que le Seigneur lui avait donné vraiment l'Esprit Saint sur lequel il pouvait s'appuyer, vivre pleinement, pour produire des fruits dignes du royaume. Et il aurait été sauvé. Mais c'est comme si le Seigneur lui montrait, mais ce que tu as fait là pour mon royaume, c'est parti. Mais je sais que tu es attaché à moi, je sais que tu m'aimes. Mais la parole nous encourage tellement à avancer. Et puis si on sert Christ, eh bien, servons-le vraiment. Comme je pensais moi-même, je me dis, Dieu nous donne son esprit. Dieu va juger la terre. Dieu ne supporte pas le péché. Il a manifesté de mille et une manières, même au travers du déluge, même au travers de son peuple lorsqu'il péchait. Il ne supporte pas le péché. Et il nous est dit que l'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Et le Saint-Esprit habite en nous. Je me dis, mais comment ça se fait que tu supportes encore le péché ? Tu supportes trop bien le péché. L'Esprit de Dieu en toi, il est dit que Dieu a horreur du péché. Et je te trouve bien confortable avec le péché. Je me trouve bien confortable au milieu du péché. Si confortable qu'il entre dans ta maison. Si confortable qu'il est à tes pieds. Si confortable qu'il est dans ta bouche. Si confortable qu'il a contaminé ton cœur. Mais ça ne te pose pas de soucis. Ça ne te pose pas de soucis. Et tu dis que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si l'Esprit Saint habite en toi, alors tu dois être indigné devant tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est aussi clair que ça. Sinon, ne serait pas de ceux, comme il est dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'étouffez pas l'Esprit. Est-ce que l'Esprit est à l'étroit ? Parce que s'il est présent au milieu de toi, si tu lui laisses toute la place, car Dieu ne te force pas, alors le péché, tu auras une horreur telle que le péché, que tu vas persévérer et que tu vas dire non, 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 car c'est à cela que Dieu t'appelle. De Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Pierre veut éveiller par des avertissements la saine intelligence du peuple. Ce n'est pas que ce qui a été déposé était mauvais, justement, il dit de se rapporter à tout ce qui a été semé au travers des apôtres et de toutes les promesses, mais il veut éveiller ces choses-là. Il ne veut pas que tu t'endormes. Le Seigneur veut te tenir éveillé. Et de la manière dont il va t'éveiller, c'est en t'avertissant. Les avertissements là sont donnés au peuple parce que dans l'Église s'est introduit des faux docteurs. Il est dit de ces faux docteurs au verset 18 du chapitre 2. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. En fait, ces hommes de qui Pierre parle, ce sont ces faux docteurs qui, d'une certaine manière, veulent négliger ou veulent ignorer qu'il y aura un temps de jugement. Parce que le temps de jugement leur rappelle que leur acte, que la manière dont ils vivent n'est pas conforme à la vérité. Et Pierre les reprend le peuple afin justement qu'ils puissent être avertis et être éveillés pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Ils étaient tout simplement dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre leur foi. Ils ignoraient en effet que Dieu avait tout créé, que Dieu avait déjà amené un jugement au travers de l'eau et que la terre était réservée par la suite pour le feu. Cela peut nous rappeler l'histoire de Lot, cela peut nous rappeler l'histoire de Noé. Lot c'est détourné. Il est dit que, comme si Lot souffrait au milieu de ce peuple, à voir toutes ces choses qui n'allaient pas, toutes ces choses qui déshonoraient Dieu. Lui-même était mal au milieu du peuple. Et il est parti. Noé, au milieu de cette génération perverse, est parti. Où te trouves-tu ? Es-tu au milieu d'eux ? Où est-ce que tu es sorti du milieu d'eux ? Il nie toutes ces choses, et si tu nies le jugement, si tu nies que le Seigneur va revenir, si tu nies que Dieu a horreur du péché, si tu nies que Dieu a condamné la terre à cause du péché, d'une certaine manière, tu passes à côté de ce que Dieu veut et tu ne discernes pas le cadeau qui t'est fait en Jésus-Christ. Toute la mesure de l'œuvre de Jésus-Christ se manifeste en proportion du jugement. Si tu sais à quel jugement tu étais destiné, alors tu rends gloire parce que Jésus-Christ t'a tiré du feu de l'enfer, de la condamnation qui va tomber sur la terre, où les gens seront balayés par la puissance de Dieu, car ils ne se sont pas soumis à l'autorité suprême qui est élevée au-dessus de tout nom, au travers de toute génération, Dieu lui-même. Que son nom soit béni et glorifié. Je ne peux plus supporter ces attitudes d'hommes et de femmes qui nient l'existence de Dieu, qui se dressent contre Dieu, qui manifestent par leurs actes, par leur manière de vivre qu'ils sont supérieurs à Dieu. Quelle arrogance, quel mépris de la gloire du Dieu céleste. Tu ne peux pas prendre part avec eux. Tu es au milieu d'eux parce que tu es la lumière et que tu dois apporter cette lumière que Dieu te donne. Mais tu ne dois pas supporter ces choses-là. Tu ne peux pas les supporter. Tu dois être indigné. Ils se dressent contre le nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Il est dit que l'Antichrist avance, et qu'il amène le comble à la colère de plus en plus, jusqu'à s'asseoir dans le temple et de dire que lui-même, il est Dieu. C'est là où tout le courant de pensée, tout ce qui est transmis, nous amène. Toute la terre, le péché, voici son œuvre. Voici son œuvre. J'ai ce passage, c'est cette lecture que j'ai faite dans les journaux, dans le quotidien, juste pour montrer là où le monde nous emmène. 37 ans en moyenne, cadre supérieur, citadine, mariée depuis plus de 5 ans et mère de 2 enfants. Ceci n'est pas une offre d'emploi ni un profil LinkedIn, mais le portrait robot de la femme infidèle, contemporaine. Publié le 13 mars dernier par le site de rencontres extra-conjugales Glinden. L'enquête menée à partir d'un brassage des données du million de femmes françaises inscrites sur la plateforme apporte quelques éléments cocasses et inattendus à ce portrait. De signe sagittaire, 1m65, avec des petites rondeurs, personnalité ambitieuse, active, généreuse, indépendante, brune, mari vigilant, vous voilà prévenu. Linded a interrogé de manière plus approfondie 52 clientes sur leur motivation classique au fond. Réveiller un libido en berne, prouver qu'elles peuvent encore séduire ou plaire, ou bien encore avoir le besoin de se sentir exister en tant que femme. La plupart pratiquent une infidélité invisible afin de préserver leur union. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elles aiment toujours leur conjoint et ne souhaitent pas s'en séparer, assure Solène Paille, directrice. Elles ont juste besoin d'un peu d'extra dans une vie devenue trop ordinaire. Tellement de choses. Diagnostic, 47% des femmes protestantes déclarent avoir été infidèles, 29% catholiques. Peu importe, on ne parle pas d'enfants de Dieu, on parle de dénomination. Et en fin de compte, à la fin, c'était... ils ont même des psychologues, en fait, qui accompagnent pour le site, pour que les personnes se sentent libres. Parce que vous voyez, il y a une certaine culpabilité à pécher. Mais ils accompagnent ça afin de t'accompagner pour que ça passe tout crème à l'intérieur de toi. Et ils disent quand même, ben, c'est vrai, il faut quand même que ça soit plutôt caché. Ils le révèlent, il faut que ça reste plutôt caché parce qu'au final, ça peut être embêtant quand même. Voilà. Voilà ce que la société... Franchement, quand j'ai lu tout le truc dans le descriptif, j'ai dit, oh, voilà les suppôts de Satan. Voilà ce qui se dresse contre le plan du Seigneur. Et moi-même, ça m'a mis aussi quelque chose. Je me suis dit, toi, Marie, toi, homme de Dieu, prends soin de ta femme. Aime ta femme. Prends soin d'elle, comme Christ a aimé l'Église. Si le Seigneur dit ça aux hommes, c'est parce qu'il sait la séduction de l'ennemi et la manière dont il travaille. Et il te rappelle ces choses-là, pour ne pas laisser de porte ouverte. Voilà. Mais voilà, femme, voilà, c'est quelque chose qui est en expansion, qui se développe. Et c'est toi-même. Et ça me faisait un écho particulier, parce qu'on aurait pu trouver pour Double Vie quelque chose d'autre. Mais on a parlé d'une femme, et je suis tombé pas longtemps après sur ces choses-là. Alors vraiment, je ne sais pas le Seigneur pourquoi il a conduit comme ça, mais en tout cas, vraiment, je vous dis, femme, soyez vraiment prudente. Car réellement, en fait, le monde est en train de vous mettre comme un espèce de Dieu. Ouais. Comme si on doit s'incliner ou je ne sais pas, adorer d'une certaine manière. L'homme, il est fait de la même manière par rapport à l'homme. Mais méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Ne laissez pas vos pensées divaguer. Ne laissez pas l'ennemi entrer dans votre maison. Parce que c'est ce que le diable veut faire. Il veut détruire la maison. Il veut ravager. Vraiment, gardez-vous. Et celles qui ne sont pas encore mariées, celles qui attendent, attendez dans la pureté. Ne vous compromettez pas avec toutes ces choses. Ayez une conduite qui est pure de A à Z. Vous avez des mères dans la foi, dans l'Église. Si vous avez une difficulté par rapport à quelque chose en particulier, confessez-le. Manifestez. En fait, c'est là. Manifestez que vous appartenez à Christ. Si vous gardez ces choses-là, vous ne lui appartenez pas, vous ne venez pas à la lumière comme il est dit dans Jean. Vous préférez rester dans vos ténèbres parce que vos œuvres ne sont pas bonnes. Si vous êtes enfant de lumière, si vous êtes à Christ, si vous êtes attaché à Christ, si vous confessez le nom de Christ, allez chercher une sœur, allez chercher une mère dans la foi pour qu'elle puisse vous encourager, prier et vous sortir de cette situation. Parce que ce que tu es en train de construire avant le mariage aura des répercussions dans ton mariage. On a pu le partager avec ma femme. Tout ce qui a été construit et déposé avant, on en subit les effets après. Et si on ne prend pas le temps de prier, si on ne prend pas le temps de se détacher, notre relation est contaminée par ces choses-là. Et elles engendrent de la frustration, de la douleur, de la rancœur, plein de choses qui ne sont pas selon Dieu. Donc, mes sœurs, mes jeunes frères, gardez-vous. Comme disait une sœur, garde ton cœur plus que tout, Philomène, car de là sortent les sources de la vie. Prends soin de ce cœur où Dieu a décidé, a voulu placer ce cadeau merveilleux qu'est son esprit. Dieu t'aime. Ce n'est pas un message dur pour toi. C'est un message qui t'encourage à bénéficier, à rentrer pleinement dans la dimension que Dieu t'a donnée, l'Esprit de Dieu en toi, pour la gloire de son nom. 2 Pierre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir dans votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. L'Éternel t'appelle pas à voir du stress, de la crainte. Si tu n'as pas réglé les choses, c'est normal que tu aies en tout cas des choses, puisque le Seigneur appelle un jugement et il est important pour toi de faire la paix avec ton Dieu. Mais ce qui m'encourage, c'est qu'il te donne une perspective d'avancer, de marcher sans tache, rien, tout clean dans le Seigneur. Mais il te dit en même temps, ça, ce n'est pas parce que tu vas stresser, que tu vas te mettre des règles difficiles, tout ça pour arriver. Il te dit dans la paix. Et il te dit, croissez dans la grâce et la connaissance. Ça veut dire que oui, tu bénéficies de cette grâce. Et justement, c'est cette grâce qui te pousse justement à aller plus loin. Tu n'as pas un truc rigide. Souvent, on dit oui, il y en a, ils sont perfectionnistes, ils veulent ceci, cela. Mais ce n'est même pas ça. Ce n'est pas le fait d'une rigueur de dire « ouais, faut qu'on marche ». Non, c'est parce que Dieu nous a appelés à ça. Et pour avancer là-dedans, c'est en te baignant dans la grâce de Dieu, dans l'amour qu'il a, dans la connaissance de son nom. Si tu apprends à connaître Christ, Christ, il va se révéler à toi. Il va te faire comprendre les choses. Tu vas avancer, tu vas avancer. Et ton visage, mon frère, ma sœur, va être transformé. Ton attitude, mon frère, ma sœur, va être changée. Quand on va te rencontrer dans la rue, les gens vont te regarder. Ils vont voir cette vie en toi. Tu n'auras même pas déposé 2-3 mots. Ils vont être mais remplis. Tiens, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas dans le stress, dans la paix du Seigneur, dans la grâce. T'impose pas un joug que les pharisiens eux-mêmes se sont imposés pour entendre dire « Je ne vous connais pas ». Parce que ta transformation se fera dans la connaissance de Jésus-Christ. Connais-tu Jésus-Christ? Ou est-ce que tu cherches à connaître Jésus-Christ? Combien de temps tu passes dans la lecture de la parole? Combien de temps tu passes dans la reconnaissance, la louange devant notre Seigneur? Combien de temps tu passes dans l'édification de l'Église avec tes frères et sœurs pour grandir en même temps. Car celui qui est à côté de toi, Dieu l'a choisi pour t'apporter ce que toi tu ne connais pas encore. Parce que Dieu a donné des dons à tout un chacun. Il a fait des enseignants, des prophètes, des évangélistes. Il a donné à chacun des ministères bien particuliers. De manière à ce que le corps de Christ, la connaissance de Christ, soit dépeinte devant nos yeux d'une manière complète au travers de son corps. Comment Christ est dépeint pleinement si ce n'est pas au travers de son corps? Christ est la tête, il parle de son corps. La connaissance de Jésus-Christ se situe à sa tête et son corps. Les deux sont comme imbriqués. Il est celui que nous devons suivre. Mais ce qu'il est se dépeint dans la communion fraternelle, dans l'édification des uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'il est si dur, mes frères et sœurs, d'avancer ensemble. Oh, on est pas mal dans pas mal de choses et on sait qu'on a un amour sincère les uns envers les autres. Mais des fois, il y a des barrières charnelles. Elles peuvent être que charnelles, puisque Dieu est un et il n'y a qu'un seul esprit. Donc les conflits, des fois, les différences, c'est que la chair qui font ces choses-là. Mais combien nous devons persévérer pour avoir un même sentiment, une même pensée, pas basée sur une idéologie, mais la pensée de Jésus-Christ. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Père, cette parole est à la fois bonne, elle est bonne et succulente pour ceux qui marchent d'une manière digne de toi, ceux qui t'ont sincèrement accepté, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ceux qui sont élus. Et vraiment, je vois cet encouragement et je vois aussi cette perspective, ce chemin que tu traces pour nous, pour eux, afin que vraiment nous puissions entrer pleinement dans ce que toi tu veux. Et en même temps, Père, je crois que ce temps de ce matin est aussi un avertissement pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi ou ceux qui servent deux maîtres à la fois. Dans ton royaume, ça n'existe pas. Dans ton royaume, ça n'existe pas. Dans ton royaume, il n'y a pas de chose untelle. Il est dit même dans tes commandements, tu es un Dieu jaloux et tu ne tolères aucun rival. Père, je te prie encore de nous parler, Seigneur. Continue de parler à nos cœurs, Seigneur. Continue de pousser ton Église, pousser dans ce chemin étroit. Qu'il n'y ait pas cette illusion qu'en passant à droite, à gauche, que je prenne des raccourcis, j'arriverai à quelque chose. Donne vraiment à ton Église d'entrer au travers de ce chemin étroit et de fermer toute porte à l'ennemi et simplement d'ouvrir uniquement la porte où toi tu rentres dans ta gloire, où toi tu rentres avec toute liberté parce que tu es au milieu de ton peuple. Oui, je te bénis, je te loue, je te remercie de toutes ces louanges qui ont été élevées. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour toutes les prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Reçois ce temps comme un temps d'adoration où nous voulons te glorifier, t'honorer et te laisser prendre toute la place. Oui, que nos cœurs fassent silence devant toi, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es au-dessus de tout. Que toute la gloire te revienne. Amen.